Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vianney, David, Bertrand, Johan, Arnaud, Victor, tous ces auditeurs ont demandé à Franck Ferrand une émission sur le roi Stanislas, duc de Lorraine. Alors comment résister à une telle unanimité? Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je précise que certains d'entre eux sont nancéens et le fait de passer chaque jour sur la merveilleuse place Stanislas, véritable trésor de ferronnerie, ce legs de Stanislas aux Lorrains ne peut que leur donner envie d'entendre parler de ce grand bonhomme. Après le grand bonhomme, si vous le voulez bien, nous parlerons tout à l'heure d'un petit, car il y avait à la cour de Stanislas un Lilliputien, un tout petit personnage qui fait l'objet du roman, ou même on pourrait dire du récit d'Ève de Castro, Joujou, retraçant le destin de ce Lilliputien de cour. L'auteur est avec nous dans ce studio. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Nicolas sur l'origine de l'expression « faire long feu » ou « ne pas faire long feu ». Quand on sait que Stanislas Leszczynski est mort brûlé vif, vous avouerez que c'est une question qui ne manque pas de certaines connotations ironiques.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Stanislas n'est qu'un des personnages évoqués par Ève de Castro dans son beau roman. Simplement, il est celui sur lequel j'ai décidé aujourd'hui de m'arrêter et vous aurez compris que les demandes de plusieurs de nos auditeurs ne sont pas étrangères à ce choix. Qui est Stanislas Leszczynski? Alors vous savez qu'aujourd'hui, on écrit son nom à la polonaise, L-E-S-Z-C-Z-Y-N-S-K-I. Pendant très longtemps, on écrivait Leszczynski en français et entre nous soit dit, c'était tellement plus facile à prononcer. Mais enfin, c'est comme ça. Je profite de la circonstance pour saluer tous nos auditeurs qui nous écoutent en Pologne grâce au podcast et grâce à Internet. Ça fait très plaisir de se savoir écouter en Pologne et je sais que certains sont très fidèles à l'émission. Je les salue. Alors, ce Stanislas était un personnage tout à fait remarquable. Il est un des princes du XVIIIe siècle. Homme de grande culture, nous dit Ève de Castro, parlant l'allemand, le français, l'italien, le latin, féru de mathématiques et d'architecture, passionné par l'art sous toutes ses formes, le duc a paré sa région, il a paré son duché de Lorraine comme une favorite en apportant un soin particulier au raffinement des jardins de Lunéville qu'on avait surnommé, nous dit Ève de Castro, son Marly lorrain. Et nous aurons l'occasion de dire un mot tout à l'heure de ce château de Lunéville. J'avais réalisé, il y a longtemps déjà, c'était en 2006, une émission en direct du château de Lunéville qui, comme vous le savez sans doute, a malheureusement brûlé dans un terrible incendie. Le travail de restauration est encore énorme. Il reste beaucoup à faire pour sauver Lunéville et il faut absolument que ce joyau de l'architecture du XVIIIe siècle renaisse un jour de ses cendres et redevienne le Versailles lorrain, justement. Alors, qui est-il, ce Stanislas, au destin singulier, au destin même extraordinaire? D'où vient-il? Il faut vous dire qu'il était né en 1677, donc il naît vers la fin du XVIIe siècle, dans une famille de la grande noblesse polonaise, Stanislas. À 21 ans, il épouse la fille d'un personnage très très influent et très riche en Pologne. Cette fille s'appelle Katrina Oparinska et de cette union vont naître seulement deux filles. On est dans l'Europe qui favorise évidemment les garçons et ça n'est pas facile d'avoir seulement deux filles pour un grand aristocrate au demeurant maintenant très riche de la Pologne. Parmi ces deux filles, il y en a une qui s'appelle Marie. C'est elle, notre Marie Leszczynska, notre reine de France. Mais on n'en est pas là, bien entendu. Comme un certain nombre de personnalités de son rang, disons, ce grand Polonais est élu à la Diète. Qu'est-ce que c'est que la Diète? C'est cette assemblée de la noblesse de Pologne qui est chargée, à chaque fin de dynastie, à chaque fin de règne, d'élire les rois de Pologne. On a oublié cet aspect, mais la Pologne est à l'époque, la monarchie polonaise est une monarchie électives. Ce sont les nobles qui se réunissent pour élire le roi. Ce qui veut dire qu'il y a des campagnes électorales, un petit peu comparables à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans nos républiques avec les campagnes électorales présidentielles. Ce n'est pas le peuple qui élit le roi, mais ce sont les nobles réunis en diète. Alors, Stanislas fait partie de cette diète, et bien figurez-vous que c'est lui qui va devenir roi de Pologne. Il finit par être élu en 1704. Simplement, cette élection n'est pas du goût de tout le monde. Un certain nombre de grandes familles polonaises sont particulièrement opposées à Stanislas. Et puis, il ne faut jamais oublier un facteur essentiel dans la politique polonaise de l'époque, c'est évidemment la Russie, bien entendu. Et c'est évidemment la Suède. Il y a deux grandes puissances dans l'Europe du Nord à cette époque, les Russes et les Suédois. Charles XII, roi de Suède, a donné à Stanislas la principauté des deux ponts qui se trouvent en Allemagne au moment où il est obligé d'abdiquer. Ça arrive assez vite, hein, cette abdication, puisque c'est en 1709. Il a régné moins de 5 ans, Stanislas. Charles XII, qui donc le soutenait contre les Russes, dans cette affaire les Russes l'ont emporté sur les Suédois, Charles XII lui permet donc, lui offre un premier refuge, et puis Stanislas va se réfugié en Alsace, dans ce qui est la partie française d'une Alsace qui à l'époque dépend en partie du Saint-Empire. Il va vivre dans la petite ville de Wissembourg, si vous voulez, où le régent Philippe d'Orléans accepte de lui offrir l'hospitalité. Alors il arrive avec, j'allais dire, avec armes et bagages. Les armes, il n'y en a plus tellement, mais des bagages, il y en a quand même un petit peu pour ce roi déchu de Pologne. C'est dur, hein, un roi élu qui en plus a été déchu, qui n'a pas su garder son trône, qui débarque comme ça avec sa femme, avec Catherine, avec ses filles, enfin plutôt avec sa fille Marie, puisque l'autre est décédée quelques mois plus tôt. Et c'est une famille qui va vivre là d'une manière incroyablement modeste. La vie quotidienne des Leszczynski à Wissembourg, c'est tout à fait incroyable. Stanislas doit bientôt mettre en gage les bijoux de son épouse, notamment ses fabuleux diamants. Il va même être obligé de mettre en gage sa propre argenterie. On dit que sa fille est obligée de raccommoder les bas de sa mère et les siens d'ailleurs, parce qu'on n'a même plus chez les Leszczynski de quoi payer des bas neufs à ces dames. Et puis un jour, et ça paraît complètement incroyable, un jour Stanislas est en train de se promener en carrosse dans Wissembourg, on est le 2 avril 1725, et puis il voit un officier français qui arrive comme ça au grand galop, qui saute de son cheval, qui demande à voir le roi déchu de Pologne. Alors on lui dit, ben c'est lui là dans le carrosse. Alors il arrive, il remet à Stanislas une lettre. Stanislas déplie la lettre, bien entendu. Il voit bien qu'il y a le cachet de la cour de France, hein, c'est pas une bagatelle. 1725, entre parenthèses, le régent Philippe d'Orléans est mort, et c'est maintenant le duc de Bourbon, cousin du tout jeune roi Louis XV, qui assume les fonctions de principal ministre. Stanislas manque vraiment de s'évanouir dans son carrosse. Il se précipite chez lui, il entre dans la chambre de sa femme, l'ancienne reine Catherine. Elle est en train de coudre, elle fait des petits travaux de couture avec sa fille Marie. Et il crie à genoux, remerciez le ciel. Les deux femmes ne comprennent pas, elles se disent mais il est devenu fou. Elles se mettent à genoux et Stanislas à ce moment-là se tourne vers sa fille et lui fait une grande révérence et lui dit « Ma fille, vous êtes reine de France. »
de la cantate « Jésus que ma joie demeure » composée par Jean-Sébastien Bach. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Stanislas Leszczynski.
Que s'est-il passé pour que cette fille d'un roi déchu de Pologne devienne la reine de France? Eh bien, il faut vous dire que l'on avait à Paris fait une liste, je dis à Paris et même à Versailles, puisque depuis 1722, la cour est de retour à Versailles, on avait fait une liste de toutes les prétendantes possibles pour épouser le jeune roi Louis XV. Quand je dis le jeune roi, il a 14 ans et demi à l'époque, ce gamin-là. Mais on se dit qu'il faut vite le marier pour qu'il puisse avoir des enfants et assurer la pérennité de la dynastie. N'oubliez pas qu'il a perdu ses frères en très bas âge et qu'il est le dernier garant de la continuité dynastique. Donc il faut vite le marier, il faut vite lui trouver une femme qui va pouvoir donner des enfants. Et parmi les princesses, il y en a beaucoup qui sont protestantes. Alors ça, c'est pas pratique, on va garder seulement celles qui sont catholiques. Et puis il y en a beaucoup qui sont toutes jeunes et qui vont mettre un certain temps probablement avant d'avoir des enfants. On les élimine aussi. Et puis il y en a qui font partie d'alliances politiques compliquées. Ça n'est pas bien pour le royaume de France. Et finalement, à force d'éliminer tout le monde, on est tombé sur cette petite-là. Vous la connaissez, vous, Marie Leszczynska? Non, personne n'a l'air de la connaître. Qui est-elle? Oh, c'est la fille d'un roi déchu de Pologne. Et quel âge a-t-elle? Ah, ça c'est intéressant, elle a presque 7 ans de plus que Louis XV. Donc on sait que, aussitôt mariée, elle pourrait donner des enfants. C'est comme ça que, un petit peu par hasard, il faut bien le dire, et sous la conduite de Madame de Prie, qui se trouve être la maîtresse extrêmement influente, la favorite toute puissante du duc de Bourbon, c'est comme ça qu'a été choisie Marie Leszczynska pour épouser le jeune et beau roi Louis XV. C'est incroyable ce qui lui arrive. Vous imaginez cette fille qui était promise à devenir probablement vieille fille dans une famille complètement oubliée dans cette petite ville de Wissembourg. Voilà que d'un seul coup, elle devient la souveraine la plus puissante de la planète. C'est quelque chose d'incroyable pour elle. Alors, évidemment, aussitôt, la famille déménage. On s'en va s'installer dans un premier temps à Strasbourg, où a lieu le mariage par procuration dans la cathédrale, le 15 août 1725. Et puis, ça y est, il faut faire les bagages, il faut monter le trousseau, etc. Alors, l'or et les diamants pleuvent littéralement depuis la cour de Versailles. C'est un changement de standing total pour la famille. Stanislas, Catherine Opalinska, sa femme, selon le protocole, ne pourront pas assister au mariage officiel. Il faut que la jeune fille s'en aille seule à la cour. Et la cour, à ce moment-là, on est au mois de septembre, donc c'est l'époque des chasses. La cour n'est pas à Versailles, elle est à Fontainebleau. C'est donc à Fontainebleau que le carrosse et toute la suite de la jeune Marie Leszczynska arrivent le 5 septembre 1725. Alors, le mariage a lieu, vous imaginez, c'est un conte de fées pour cette jeune fille, bien entendu. Son jeune mari est tout à fait amoureux d'elle. D'ailleurs, ils auront 10 enfants ensemble, dont beaucoup de filles, essentiellement des filles, 8. Quant aux beaux-parents, qu'est-ce qu'on va faire des beaux-parents? Dans un premier temps, il faut leur trouver une résidence convenable. Alors, le jeune roi Louis XV et ses ministres se posent la question, où les loger? Il y a le château de Chambord, qui est inhabité depuis un demi-siècle. Pourquoi pas les installer à Chambord. De son côté, Marie met au monde ses premiers enfants, sont des sœurs jumelles, en 1726, et puis encore une fille l'année suivante, et enfin, en 1729, naît le premier fils, ça c'est très important. Louis-Ferdinand de France, dauphin bien entendu, naît en 1729. Ce dauphin, c'est lui qui sera le père de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X au passage. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Il faut trouver une principauté, il faut trouver un pays, il faut trouver un statut au beau-père du roi. Il se trouve qu'en 1733, le roi de Pologne, qui est en même temps le roi de Saxe, c'est Auguste II, vient à mourir. 1733, Louis XV se dit, ça c'est l'occasion que j'attendais. Il va monter toute une machination pour essayer de remettre son beau-père sur le trône de Pologne. C'est toute une stratégie diplomatique, bien entendu. Le roi de France, dans cette affaire, et ça c'est assez incroyable, va mener une diplomatie privée. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les ministres, le gouvernement de la France, etc., qui fait des déclarations, qui envoie des... etc., qui mène sa politique. Et puis, secrètement, en privé, le roi lui-même va avoir ses propres agents qu'il envoie sur place pour essayer de favoriser ses affaires. C'est la naissance de ce qu'on va appeler le secret du roi qui, vous le savez, par la suite, 30 ans plus tard, posera de si grands problèmes à la monarchie française. Le ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Chauvelin, annonce à grand fracas que le roi Stanislas, roi déchu de Pologne, se met en route pour la Pologne, entre parenthèses en passant par Brest, parce qu'il va s'embarquer, c'est plus sûr, hein, c'est plus simple, il va passer par la mer du Nord, par la mer Baltique, etc., par Gdansk, par Danzig, si vous voulez, trajet quand même de 4 à 5 semaines. En réalité, c'est un faux Stanislas qui monte en carrosse, c'est un sosie qui a revêti son uniforme et qui quitte Versailles parce que pendant ce temps-là, le vrai Stanislas, qui est déguisé en voyageur de commerce, monte lui dans une voiture rapide, il passe par la voie de terre, c'est-à-dire par Cologne, par Hambourg, par Berlin, il gagne l'Oder, ce qui permet évidemment de prendre les gens par surprise. À ce moment-là, l'ambassadeur de France à Varsovie, le comte de Monti, est là qui l'attend. Stanislas traverse le fleuve, il change de vêtements bien entendu, il prend son bel uniforme, il barre sa poitrine du grand cordon bleu du Saint-Esprit, le plus grand des ordres de chevalerie de France, pour bien montrer qu'il est le candidat de son gendre, le roi de France, et le voilà qui entre dans Varsovie dès le 8 septembre 1733, deux jours avant la date de l'élection. Et la nouvelle se répand dans Gdansk, et le 11 septembre 1733, Stanislas est élu à la Diète à une large majorité. Pour la seconde fois, il est donc roi de Pologne. Seulement deux jours après son installation au château de Varsovie, les avant-gardes russes s'approchent de la Vistule. Le nouveau roi se dit que c'est quand même très dangereux, que dès que les Russes vont entrer dans Varsovie, ils vont venir le zigouiller, si vous me passez l'expression. Et donc, il s'enfuit. Auguste III, son rival, est à ce moment-là proclamé roi à Varsovie. Et voilà, voilà Stanislas obligé de s'enfuir dans un déguisement. Alors, c'est totalement rocambolesque. Il va se cacher dans le grenier d'une auberge. Enfin, c'est incroyable, sa fuite, si je puis dire. La France entre en guerre contre l'empereur Charles VI, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ça va être le début de la guerre de succession de Pologne. Mais pour ne pas se retrouver avec des puissances neutres sur le dos, la France n'envoie pas pour autant de renforts à Stanislas, qui, dans un premier temps, est assiégé dans Danzig par les troupes russes. Il va devoir fuir. C'est à ce moment-là qu'il se déguise en paysan. Une fuite qui va quand même durer 6 jours. Il est aidé quand même par un espion, par un envoyé, un agent secret du roi Louis XV. Finalement, dans cette affaire, la France gagne la guerre, la paix est signée et le duc de Lorraine va devoir, qui n'est autre que François III, hein, qui est le grand homme de l'Autriche, si je puis dire, renonce à son duché de Lorraine. En échange, il va recevoir le grand duché de Toscane. Et voilà ce qu'on décide. On décide que le duc de Lorraine sera désormais le gendre du roi de France, Stanislas, et qu'à la mort de Stanislas, la Lorraine fera retour à la France, en tout cas qu'elle entrera dans le giron de la couronne.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du roi Stanislas.
C'est en mai 1736 seulement que le roi Stanislas est de retour à la cour. Vous imaginez comment il est accueilli par sa fille, la reine Marie Leszczynska, par son épouse, la reine également, Catherine Opalinska. Ce sont des grandes retrouvailles, c'est magnifique. On installe le roi deux fois déchu de Pologne au château de Meudon, en attendant qu'il puisse regagner dignement son duché de Lorraine. Il y a encore quelques négociations diplomatiques à gérer. Et à partir de là, de 1736 jusqu'à sa mort en 1766, pendant 30 ans, pendant 3 décennies entières, Stanislas va non seulement régner sur la Lorraine, mais il va faire de ce duché de Lorraine quasiment un état souverain. Il va en faire une des plaque tournante de la culture et de l'art européen. Il va décorer incroyablement la ville de Nancy, d'où la fameuse place Stanislas. Il va se faire bâtir un château digne de Versailles, c'est le fameux château de Lunéville. Voilà ce que nous dit Albert Jacquot, hein, c'était un de ses érudits de la belle époque dans le mobilier et les objets d'art des châteaux du roi Stanislas. Il nous dit « Le château de Lunéville dépassait en magnificence toutes les autres demeures de son temps. La salle à manger, dont la boiserie contenait 12 superbes tableaux représentant l'histoire d'Achille, une pendule astronomique, des buffets sculptés, une tribune pour les musiciens, des lustres gigantesques, des girandoles de cristal et des vases de toute beauté. C'est la chambre de parade du roi et la salle du trône qui frappaient le plus les regards des souverains et même de tous ces personnages illustres qui venaient en visite à Lunéville. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'un souverain divin, aussi munificent, aussi intelligent, aussi glorieux que Stanislas va vouloir qu'à sa cour figurent les plus grands. Et on va voir des grands écrivains, on va voir Voltaire, on va voir tous ces gens-là affluer, bien sûr, à Lunéville. Et puis, Nancy se transforme, se transfigure même par la grâce de l'architecte Emmanuel Héré. Et puis, de ce célèbre serrurier, alors je dis célèbre, il est devenu célèbre grâce à son travail, mais au départ c'était un simple serrurier de Nancy, il s'appelle Jean Lamour, et c'est lui qui va forger ces fastueuses grilles qui ferment aujourd'hui encore la place Stanislas et qui en fait un des joyaux de l'urbanisme français, inscrit aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Stanislas est à l'origine de la fondation de la Bibliothèque royale de Nancy, de la Société royale des sciences et belles-lettres de Nancy. Alors c'est amusant parce qu'il est duc de Lorraine, beau-père du roi de France, mais il est aussi toujours roi de Pologne dans les titres. Et donc on lui sert du majesté, il est royal et toutes les institutions se parent de ce titre de royauté. Ève de Castro, dans son livre, nous dit « Le beau-père du roi de France a l'embonpoint d'une barrique, le teint d'un rouge vineux, des bajoues de dindon encadrées par une longue et épaisse perruque blanche dont les boucles rebiquent sur ses épaules. Ses sourcils, sont touffus et sinueux, la bouche grasse, retroussée aux commissures. Il ronfle comme un soufflet de forge en marchant et voit à peine plus loin que le comte Tarnoff, mais l'âge n'a pas altérer sa bonhomie naturelle. » Là, vous avez bien compris qu'on est vers la fin du règne, on est à l'époque où le roi Stanislas, évidemment, commence à devenir un vieux monsieur. Alors, dans son ouvrage, Ève de Castro affirme que Stanislas avait lui aussi déjà son jouet humain, si l'on peut dire, hein, comme d'ailleurs la plupart des souverains d'Europe. Il l'avait surnommé Bébé, on y viendra tout à l'heure. C'était le fils d'un charron des Vosges et il avait la réputation d'être le plus petit nain du monde, parce que Stanislas voulait les plus grands vases, mais les plus petits nains, si vous me passez cette terrible comparaison. Eh bien, en l'occurrence, il va découvrir qu'il y a encore plus petit. Mais ça, c'est le sujet de la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler de ce Lilliputien tout à fait extraordinaire, de ce Joseph, qui lui-même était polonais. Ça ne pouvait que plaire, ça, au roi déchu de Pologne. Stanislas, c'est vrai qu'il était gros, qu'il était un peu gras, qu'il était rouge de teint, etc. Mais c'était bien sûr que c'était un bon vivant. Mais c'était surtout une force de la nature. Et moi, je pense qu'il aurait pu vivre encore assez longtemps. Sauf que les cheminées du château de Lunéville sont dangereuses. Vous allez voir dans un instant pourquoi je dis cela. En attendant, en février 1766, Stanislas est en train de se rapprocher de la cheminée. On est en février. Ce mois de février 66 a été particulièrement froid dans toute l'Europe et particulièrement en France. Alors, il vient de prendre ce qu'on appelle son déjeuner, son repas du matin. Stanislas, il est encore en robe d'intérieur, en robe de chambre. Il a une grande robe de chambre de velours et de brocart, vous imaginez, avec des fourrures. Il se rapproche de la cheminée et c'est un vieux monsieur. Vous voyez qu'il marche un petit peu pas très bien. Il se rapproche trop. Il y a un brandon qui saute du foyer, la cheminée prend feu et le pauvre Stanislas, qui n'est pas très réactif, va se transformer en torche vivante et il meurt brûlé vif ce 23 février 1766. Il sera inhumé à Nancy. Ses entrailles se trouveront jusqu'à la Révolution dans l'église Saint-Jacques de Lunéville. Et comme il avait été prévu, la Lorraine va faire retour à la France. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, on reproche beaucoup à Louis XV le célèbre traité et désastreux traité de Paris en 1763 qui nous a vu perdre nos possessions américaines et notamment les arpents de neige dont parlait Voltaire à propos du Canada. Mais ça veut dire aussi que Louis XV, qui achètera en 1768-69 la Corse, nous a aussi permis en 1766 de récupérer la Lorraine. Bonjour Ève de Castro. À la cour de Stanislas se trouvait un personnage tout petit, vraiment tout petit. C'était un Lilliputien, on en parle avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Joujou, nain de cour, avec votre invité, l'écrivain Ève de Castro, scénariste et auteur de Joujou aux éditions Robert Laffont.
Alors Ève de Castro, je dois vous dire que quand j'ai commencé la lecture de votre ouvrage, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un personnage de fiction. Et l'on découvre que le Joseph dont vous parlez est un vrai personnage.
Oui, bien sûr, qui a publié ses mémoires. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis intéressée à lui. Vous savez mieux que personne que l'histoire nous offre parfois des personnages de romans qu'on n'oserait même pas imaginer.
Et relativement méconnus, parce que pour tout vous dire, pour connaître un peu le XVIIIe siècle, moi, celui-là, il m'était complètement passé à côté.
Ah, ça m'étonne.
Eh oui. Alors, il faut expliquer qu'il n'a pas seulement été à la cour de Stanislas Leszczynski. Il faut raconter un peu la vie de ce personnage, comme vous le faites dans votre roman.
Oui, c'est parce que c'est vraiment un personnage d'abord tout à fait exceptionnel par son apparence, hein, puisque il est lilliputien. C'est-à-dire que c'est un nain, ça n'est pas un nain au sens où on le conçoit habituellement. Aujourd'hui, on dirait qu'il souffre d'un déficit radical d'hormones de croissance. Mmh. Donc il est né à 20 cm. À 9 ans, il en mesurait 50, ce qui est la taille à peu près d'un enfant à la naissance. Et il a vécu jusqu'à 98 ans. Et à 98 ans, il mesurait un peu moins d'un mètre. Donc sa longévité, en plus, est exceptionnelle. Et il est passé, à cause de cette exceptionnelle longévité, à travers toute la bascule de l'Ancien Régime. Il a connu le siècle de Louis XV, toute l'Europe en dentelle, le siècle de Louis XVI. Il est passé en Angleterre, il a connu les débuts de la Révolution industrielle. Et quand il meurt à 98 ans, l'Europe n'a plus rien à voir avec celle de sa naissance en 1739.
Il n'était pas le seul spécimen, si je puis dire, le seul phénomène de sa fratrie.
Non. Sa mère a eu six enfants, trois garçons de grande taille, qui curieusement sont morts avant l'âge de 20 ans, et puis trois lilliputiens. Il est apparemment le plus petit, une fille toute petite, morte à 20 ans, et il est celui qui a vécu le plus vieux, et surtout, il était ce qu'on appellerait aujourd'hui un enfant surdoué. Et donc il a été célèbre, non pas seulement à cause de son apparence, mais à cause de son extraordinaire intelligence, et de son grand talent de musicien aussi.
Alors comment, dans quelle famille naît-il? Qui sont ses parents?
Ses parents sont des petits aristocrates polonais. Le père vraisemblablement grand joueur, grand buveur, grand amateur de dames, mort ruiné dans des circonstances troubles, probablement un suicide. Et à la suite de ce décès prématuré, la mère tombe dans la misère. Et comme ça se faisait souvent à l'époque, elle essaye de caser ses enfants. Alors elle en a trois qui sont éminemment « casables », entre guillemets, avec tout ce que ce terme a de terrifiant pour nous, mais ça se pratiquait à l'époque. Et elle donne Joujou, elle cède Joujou, elle vend Joujou, qui s'appelle à l'époque encore Joseph Borouflavski. À une sienne amie fortunée qui s'appelle la Starostine de Kaorlitz et qui est une voisine et probablement une amie d'enfance, une camarade de jeu.
Mais quand vous dites elle le vend, c'est terrible. On est alors là vraiment dans un trafic d'êtres humains.
Ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Ça se faisait beaucoup. Et évidemment, l'enfant a 9 ans. Et à 9 ans, il est tout petit. À 9 ans, il a la taille d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans.
51 centimètres, hein, c'est ça?
Oui. Ah oui, vous avez tout à fait raison. À 9 ans, il mesure 51 centimètres. Donc la taille d'un enfant à la naissance.
C'est ça, hein,
c'est
ça.
Et il est parfaitement proportionné.
Alors voilà.
Donc on imagine la curiosité que ça peut susciter.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme, il n'y a aucune difformité chez lui.
Et il n'y en aura aucune jusqu'à la fin de sa vie. Avec cette caractéristique étonnante.
Il est très joli en plus.
Qu'il ne vieillira physiquement quasiment pas. Il est ravissant. Il est blond, il a les yeux bleus, c'est le bébé cadom qu'on verrait aujourd'hui sur les publicités. Et sa main à la taille d'une oreille, son oreille à la taille d'un coquillage. Et en plus, c'est une espèce de petit prodige, seulement dans l'ordre de la conversation à l'époque, parce qu'il ne sait ni lire ni écrire encore, sa mère n'ayant pas eu les moyens de lui offrir un précepteur.
Il se rattrapera.
Il va se rattraper largement. Et donc, c'est un merveilleux bibelot. Et Madame de Kaorlitz l'acquiert à ce titre, en faire ce qu'on appelait à l'époque son bichon.
Starostine, alors,
c'est la femme d'un starost, qui est un dignitaire polonais, qui gère pour le compte de la couronne des vastes domaines. Cette dame est veuve, comme elle est un peu obèse, elle a du mal à trouver un second mari. Elle ne le souhaite pas particulièrement d'ailleurs. Et à partir du moment où Joseph, qu'elle rebaptise Joujou, devient son protégé...
J'allais dire, il faut expliquer quelle est la relation entre eux. Ça, c'est tout à fait étonnant en fait.
Ah, c'est la relation qu'on peut avoir, je pense, qu'une femme capricieuse, très gâtée, assez fortunée, peut avoir avec un singe savant ou un petit animal de compagnie. Donc elle l'habille, elle le pare, elle le tripote, elle le maquille, elle lui demande de japper, de danser. Et puis, en cachette, son lecteur, parce que toutes les grandes dames de l'époque avaient un lecteur français, puisque le français était la langue...
Et bien sûr, la langue des cours,
voilà,
disons.
La langue des cours et la langue des gens cultivés. Mm-hmm. Le lecteur lui apprend à lire et à écrire, en cachette, parce que bien évidemment, un bichon n'est fait que pour japper. Et à partir du moment où elle s'en rend compte, d'abord elle entre dans une grande fureur, et puis elle réalise très vite le bénéfice qu'elle peut en tirer. Et elle le produit dans son salon. Et son salon devient extraordinairement
à la mode. Les gens ne viennent pas pour la voir, elle, évidemment,
pas
mais
du
pour
tout.
Voir le petit.
Pour voir le petit Joujou. Et donc, elle produit l'enfant en public. Et grâce à cette publicité qu'il lui fait, elle trouve un second mari. Trouvant un second mari, elle croit être enceinte. Ce qui, étant donné son embonpoint, est un peu sujet à caution. D'ailleurs, elle ne le sera pas. Et vous savez qu'à l'époque, on pensait que quand une femme enceinte posait les yeux sur un noir, l'enfant était noir, sur un homme qui avait
oui,
un bec de lièvre.
Il y a toutes sortes de superstitions.
Et donc, sur un nain, l'enfant risquait d'être nain. Et l'une de ses connaissances qui fréquentait son salon, qui est une beaucoup plus grande dame, qui est la comtesse Umieska, alliée à toutes les cours d'Europe, se dit qu'elle va profiter de cette superstition
pour récupérer
Joujou. Le prodige. Et c'est ce qu'elle fait.
Et la comtesse Umieska a quelque part l'âme d'un impresario, il faut le dire.
D'un impresario, d'un mentor,
c'est
d'un Pygmalion. Et elle va faire de Joseph ce qu'il est devenu. D'abord, elle va développer ses capacités intellectuelles de manière tout à fait formidable. En sortant de son éducation de gentilhomme, il parle quatre langues, c'est un danseur accompli, et elle va l'emmener tribuler dans toutes les cours d'Europe où il va apprendre à jouer du violon. Et donc, à la fin de ce tour initiatique il a entre 15 ans et 22 ans, où il va devenir une légende, la légende qu'il est resté jusqu'à la fin de sa vie, démarre là. Non seulement il est polyglotte, mais en plus c'est un violoniste accompli. Et Madame Umieska, comme la protectrice qui l'a précédée, devient la coqueluche de l'Europe grâce à ce tout petit homme.
Et quelles sont les mœurs de ce tout petit homme? Parce qu'il grandit quand même, il devient adulte. Quand je dis il grandit, il devient adulte. Le pauvre, il n'est toujours aussi petit, hein, quasiment. À 25 ans, vous dites qu'il fait 71.
Oui, c'est 75 centimètres. Oui. Il grandit, mais très lentement. Parce que le déficit d'hormones de croissance...
Il n'arrêtera jamais de grandir quasiment, d'ailleurs. C'est
et d'ailleurs,
oui.
Comme il avait beaucoup d'humour, il disait que s'il avait grandi 500 ans, il aurait atteint la taille
c'est
d'un
ça.
Grenadier. Ce qui est possible, peut-être. Mais sa puberté est aussi tardive que sa croissance. Et le paradoxe, c'est qu'il devient pubère autour de l'âge de 25 ans, et que là, soudainement, alors que les dames continuent à le prendre
à le cajoler, comme si c'était
avec
un petit animal de compagnie, si j'ose
très
dire.
Très pervers, ça, le tripoter, etc. Parce qu'il est un joujou pour elle, dans tous les sens du terme.
Oui, voilà.
Tout d'un coup, ces femmes qui le laissaient absolument de marbre, il avait vraiment l'essence d'un enfant, il s'éveille à l'émotion érotique, et là, ça lui pose quelques problèmes sérieux.
Beau sujet de roman,
voilà,
tout de même.
Beau sujet de roman. Et il est amoureux de toutes les femmes, Il les désire toutes, et son désir, selon le principe philosophique qui dit que le désir précède son objet, le désir cherche où se fixer. Et malheureusement, il se fixe mal, et il se fixera toujours mal. Il aimera toujours des femmes, curieusement, françaises, et toujours des femmes de grande taille, enfin de taille normale, entre guillemets, et toujours des femmes qui se joueront de lui.
Et qui vont même essayer, dans certains cas, de l'utiliser, disons.
Absolument, mais toutes les femmes vont l'utiliser, toutes les femmes. Et il les aimera, c'est un homme de grand cœur et de grande âme. Et la première sur laquelle son intérêt se fixe dans tous les sens du terme est une petite actrice française en tournée à Varsovie, qui s'offre à lui. Et lui est sûr que c'est arrivé, il va l'épouser, c'est la femme de sa vie. Et elle fait de lui la risée de Varsovie. Et quand il s'en rend compte, il est meurtri, mais jusqu'au plus profond. Et il se jure que jamais, plus jamais, il ne fera confiance à une femme.
Oh là là,
plus jamais il n'aimera.
Il ne faut jamais dire ça, la preuve,
la
c'est
preuve,
que...
La preuve, c'est que 25 ans plus tard, 25 ans de chasteté. Alors que c'est au déduit, comme on disait au XVIIIe siècle, il est extrêmement ardent, extrêmement pressant et apparemment extrêmement efficace d'ailleurs. Et 25 ans plus tard, il rencontre l'amour de sa vie, qui est la demoiselle de compagnie de sa protectrice, Isaline Barboutan, très très jolie jeune femme selon les gravures de l'époque. Elle a 15 ans de moins que lui et elle le considère toujours comme un enfant, ce qui sera le drame de sa vie. Et le drame de sa vie, plus largement, est qu'il sera toujours partagé, déchiré entre le désir d'être célèbre pour ce pourquoi on le recherche, c'est-à-dire son apparence.
Et bien sûr, il essaie d'en tirer parti, ce qui est normal.
Et le besoin, comme tout le monde, comme nous tous, d'être aimé pour ce que nous sommes, non, profondément.
C'est presque un conte philosophique que vous avez développé, et ce qui est intéressant, c'est que les personnages pervers ne sont pas ceux qu'on croit.
Bien sûr, ce sont
finalement toutes ces femmes qui...
Ces femmes.
On se demande un peu ce qu'elles cherchent en lui, finalement.
Et il raconte dans ses mémoires qu'il a découvert, avec sa première expérience plus sexuelle qu'amoureuse, hein, et puis avec son grand amour pour cette Isaline, jusqu'où peut aller la curiosité des femmes ?
Le roman est aussi un moyen de se promener à travers les cours d'Europe, il faut le dire, parce qu'il a connu tout ce que le XVIIIe siècle a pu offrir de brillant et de puissant. Ça, c'est incroyable.
Oui, et ce qui m'a fasciné quand j'ai étudié le personnage, c'est de voir à quel point... Au fil du temps, puisque lui a vécu si longtemps et qu'il a parcouru l'Europe sous le siècle de Louis XV, et puis après son mariage, il recommence avec sa femme et son enfant le même parcours, le même grand cours de tour d'Europe. Et donc sous deux siècles différents, puisqu'il arrive, sous deux règnes différents, à Paris sous la Révolution. Et rien n'a changé. Cette Europe qui est sur le point de basculer, Les cours ne pressentent absolument pas ce qui va être la révolution et justement l'effondrement de l'Europe en dentelle. Et donc, c'est une Europe qui est à l'image du visage de Joujou. C'est-à-dire qu'elle ne vieillit pas. Et 25 ans après, il retrouve les fils ou les filles. Aux mêmes endroits. Et il raconte dans ses mémoires que c'est comme l'Olympe. En fait, ce sont des personnages qui se prennent pour les dieux de l'Olympe et qui vivent comme les dieux de l'Olympe. Tout le monde couche entre soi, tout le monde se marie entre soi. Et on est complètement... isolé de la réalité du peuple.
Alors il a connu l'impératrice Marie-Thérèse, il va connaître le roi Stanislas, c'est pour ça que j'en parlais moi au début de cette émission, nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Joujou, nain de cour, avec votre invité Eve de Castro, écrivain, scénariste et auteur de Joujou aux éditions Robert Laffont.
L'une des scènes les plus fortes de la vie et donc du roman se passe à la cour du roi Stanislas. Il faut expliquer dans quelles circonstances il y arrive, Eve de Castro.
Alors il y arrive avec sa protectrice, Madame Imieska, en visite, comme il a visité tous les principules de...
Quand je dis il, pour ceux qui nous rejoindraient, c'est ce personnage, hein, ce Joseph, ce petit lilliputien,
ce joujou,
qui est
ce
un tout petit personnage de 70 cm de haut. Hein.
Exactement. Et donc Madame Imieska, polonaise, va à la cour, est reçue en amie, hein, vraiment quasiment en fille, à la cour de Lunéville. Et là, Joujou rencontre son premier rival, son premier presque équivalent, qui est le nain bébé. Stanislas possède, puisque c'est ce qu'on
comme
disait à l'époque...
Comme tous les princes, oui, voilà, c'était
oui,
une habitude.
Mais lui croit, du moins, posséder le plus petit homme du monde. Nicolas Ferry est né aussi petit que Joujou.
Nicolas Ferry dit bébé, hein, c'est
dit
ça.
Dit bébé. Le mot apparemment a été inventé par Stanislas pour ce nain-là, qu'il a pris avec lui à l'âge de 5 ans.
C'est l'origine du terme bébé qu'on emploie maintenant dans le monde entier, c'est étonnant.
C'est drôle, hein. Et exactement comme les protecteurs de Joujou, il lui a fait bâtir une petite maison dans ses appartements. Mais ça n'est pas le même type de nanisme. À partir de la puberté qui s'est chez bébé déclenchée à l'âge normal, le corps se déforme, le caractère a changé. Et au moment où ces deux jeunes gens, puisque bébé a 18 ans et Joujou en a une vingtaine, se rencontrent. L'un a l'air d'un vieillard et l'autre a toujours l'air d'un enfant de 5 ans.
Donc là, c'est d'une complexité leur relation. D'abord, il y a une concurrence terrible.
Féroce. Et on imagine le choc que ça peut représenter pour l'un et pour l'autre. Pour celui qui est resté, selon les mémoires de l'époque, quasiment un petit animal, lui vraiment, et l'autre qui est déjà intellectuellement un prodige, chacun voit dans l'autre le reflet difformé de ce qu'il est. Et le bébé est pris d'une jalousie féroce à l'égard de Joujou, et comme il est un peu plus grand et un peu plus fort, il mesure 14 cm. Et dans ces 14 cm, il y a la chute de tout ce qu'il est. Il essaye de tuer Joujou, et il le pousse dans la cheminée.
Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que les cheminées de Lunéville étaient dangereuses, en fait.
Très, très dangereuses. Mais au-delà de l'anecdote, on peut imaginer ce qu'a pu être la souffrance des deux êtres. Des deux, vraiment. Et Joujou le raconte, Joseph le raconte dans ses mémoires, et on lit entre les lignes ce que peut être l'humiliation et ce que peut être la souffrance d'une pareille condition.
Oui, bien entendu. Cette condition-là était quand même princière d'une certaine manière. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, être de petite taille, comme nous dirions aujourd'hui, était un moyen d'accéder aux cours et d'accéder aux grands personnages du temps.
Une vie qu'on n'aurait jamais eue sans ça.
Ce qu'on appelle en Espagne la tératologie, en quelque sorte, c'est-à-dire le goût des personnes.
Des monstres. Oui. La tératologie, c'est la science des monstres.
C'est ça.
Mais Joujou dit, et j'ai trouvé ça absolument merveilleux dans ses mémoires, que il est né sous le signe du merveilleux. Et il se considère comme une merveille au sens littéral du terme. Il sait qu'il est un monstre, là aussi, au sens littéral du terme, c'est-à-dire digne d'être montré. Mais il sait aussi que sans son apparence exceptionnelle, il n'aurait jamais pu connaître tout ce qu'il a connu et accéder à la culture qui a été la sienne.
C'est-à-dire que dans son cas, évidemment, le fait non seulement d'être tout petit, mais de ne pas vieillir. Vous dites qu'à 60 ans, il a le visage quasiment d'un adolescent, d'un garçon de 20 ou 25 ans,
Et à Durham, où sont les archives, où il a passé à côté de Newcastle en Angleterre, où il a passé les 30 dernières années de sa vie, il y a la statue Grandeur Nature. C'était la célébrité locale. Hein. Sa statue Grandeur Nature à 65 ans, donc il y était depuis quelques années déjà. 65 ans, franchement, il a l'air d'un homme de 35 ou 40 ans.
C'est un virtuose de la musique, il faut dire.
C'est un grand violoniste, compositeur, oui. Et à la cour du roi George, le roi fou à Londres, il jouait à la fois pour la cour, pour toute l'aristocratie, des concerts publics dans les grandes salles de Londres, et il jouait aussi dans les bordels.
Et ça, c'est assez nouveau et je dirais assez moderne. C'est-à-dire qu'il prend son destin en main, il a l'âge pour le faire, mais encore une fois, ça ne se voit pas, et il prend son destin en main et il n'est plus seulement un Joujou princier, il peut devenir aussi un amusement public d'une certaine manière.
C'est ce à quoi il aspire à vivre à ne plus seulement vivre de la production, de la protection des princes, mais de son propre talent. Ça va être très difficile parce qu'il est toujours pris en tenaille au sein de ce paradoxe. On le recherche pour son apparence alors que lui veut être recherché pour son talent. Donc il essaye et il essaiera jusqu'à la fin de sa vie de jouer sur les deux tableaux, comme il jouera d'ailleurs du violon et de son apparence dans toutes les strates de la société londonienne, puisqu'il émigre à 45 ans et il va rester en Angleterre jusqu'à la fin de sa vie. Et il jouera, il va tribuler, mais vraiment, dans toute l'Angleterre, en Irlande, en Écosse, il jouera dans les bordels, comme je vous le disais, il jouera dans des bals publics, il organisera des bals publics où il conversera et où il fera danser les jeunes mariés.
Ce que vous nous disiez quand on préparait cette émission, c'est qu'en fait, vous êtes tombé sur les mémoires rééditées là en 2008, de ce personnage, de ce Joseph. Vous êtes tombé sur ces mémoires en travaillant sur le phénomène des nains de cour, en fait.
Tout à fait, oui. Qui est un phénomène alors qui date déjà du Moyen Âge,
qui remonte au XIVe siècle, on va
dire. Absolument. Mais les nains de cour, au sens où nous l'entendons, avaient plutôt le physique de Tyrion Lannister dans Game of Thrones.
Bien sûr.
Ce n'était pas des liputiens.
Personnage fascinant de la série, du reste.
C'est mon préféré. Mais vous savez qu'il y a aujourd'hui, pas tout à fait l'équivalent, mais quelque chose de tout à fait comparable en Chine. où justement les hormones de croissance ne sont pas distribuées, on rassemble les nains et les lilliputiens, toutes les personnes de petite taille, dans un grand parc d'attractions qui s'appelle l'Empire des Nains, où ils sont logés.
C'est à Pékin, ça ?
Non, c'est dans une province dont j'ai oublié le nom, où on vient les voir de toute la Chine, et ils ont des petites maisons, comme celle de Joujou, comme celle de Bébé, et ils sont logés, nourris, protégés, en échange de spectacles qu'ils donnent là-bas. Donc aujourd'hui, l'équivalent des cours d'Europe, ça fait rire, ça fascine le public. Ça fait pas forcément rire.
Ça
méduse.
Mais vous savez, je ne veux pas nous jeter la pierre, mais on a tendance évidemment à être effaré de ce qui se passe en Chine. Mais ça se passait chez nous il y a 50 ou 60 ans, il ne faut pas oublier. On montrait dans les foires, dans les fêtes foraines, dans les cirques, on montrait des personnes de petite taille. Montrer, hein, le terme de monstre, ça vient de là en fait.
C'est ce qui est digne d'être montré.
Oui.
Mais encore une fois...
Rappelez-vous le film Freaks d'ailleurs, tout
simplement. Tout à fait, oui, tout à fait. Et
ça,
puis
regardez
dans Games of Thrones. C'est vrai que Tyrion Lannister est presque unanimement le favori du public. Mais c'est aussi parce qu'il est intelligent, c'est aussi parce qu'il a de l'esprit. Et je pense que Joseph Borowlaski, dit Joujou, n'aurait pas fait la carrière tout à fait extraordinaire qu'il a faite s'il n'avait pas, en plus de sa taille étonnante, de son apparence ravissante, eu le talent de conversation
et le
talent de musicien qu'il a eu. Et si les cours d'Europe le recherchaient, et si les grands l'estimaient, le prince de Konitz, par exemple, l'appelait son petit ami, le recevait en privé, comme on reçoit un ami. Et le margrave et la margravine d'Anspach, qui ont acheté sa fille aînée.
Oui, c'est ça, parce qu'il a eu une postérité,
il
faut le dire.
Il a eu une postérité, et tombé lui aussi dans une situation précaire juste après son mariage, parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais lui-même s'est retrouvé sur le pavé après avoir choisi ce grand amour plutôt que la protection de la comtesse Mieszka. Sa femme a un enfant, il est jeté à la rue et lui-même va être obligé d'abandonner l'enfant, une fille, comme il avait été abandonné à l'âge de 9 ans.
Joujou d'Ève de Castro, ce n'est pas seulement un beau roman, c'est un beau récit historique et c'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup Ève de Castro.
Merci Franck.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez Franck Ferrand cet après-midi à la question de Nicolas et nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait savoir quelles sont les origines de l'expression faire long feu ou ne pas faire long feu.
Oui, vous avouerez qu'après toutes ces histoires de cheminées et de brasiers, la question d'aujourd'hui pose problème. Faire long feu ou ne pas faire long feu, en fait, ce sont deux expressions différentes. Ne pas faire long feu, ça veut dire ça va pas durer longtemps. Ça repose sur l'image d'un feu de paille, rapide, éphémère, implacable. Une autre explication renvoie d'ailleurs à la mythologie grecque et à l'un de ses héros, Méléagre. Dans une version du mythe de Méléagre, des divinités qu'on appelait les Moires apparaissent peu après sa naissance et annoncent que la vie du héros est liée à un des tisons du foyer. Quand le tison sera entièrement consumé, Méléagre mourra. Alors vous imaginez que la maman fait attention, elle enlève la bûche du feu, elle la dissimule pour préserver la vie de son fils. Seulement après avoir tué le sanglier de Calydon, la mère de Méléagre apprend qu'il a tué ses deux frères et à ce moment-là, elle décide de jeter la fameuse bûche au feu et ça cause la mort de Méléagre. Bon. Quant à faire long feu, dans un sens différent, ça fait référence, ça remonte à l'époque des toutes premières armes à feu, lorsque les canons et les fusils devaient être chargés avant chaque tir. Si l'amorce ou la mèche destinée à faire exploser une cartouche, un bâton de dynamite, un pétard, un baril de poudre, que sais-je, si la mèche s'éteint à cause d'une poudre trop humide ou d'une mèche qui se consume trop lentement pour provoquer l'explosion, on appelle ça faire long feu. Faire long feu, ça veut donc dire traîner en longueur et finalement échouer. Donc ne pas faire long feu, ça veut dire aller très vite. En revanche, une affaire qui a fait long feu, eh bien ça veut dire qu'en fait elle est un pétard mouillé, qu'elle a échoué et qu'elle n'a finalement pas eu de conséquences.